voix nue. Cette semaine, Frédéric Saïs rencontre Claude Angéli. Ce soir, une liberté à défendre.
Bonsoir Claude Angéli.
Bonsoir.
Cinquième et dernier épisode avec vous, nous évoquions hier le rapport compliqué entre le canard enchaîné et le monde numérique. L'un de vos confrères, Franz-Olivier Gisbert, a quitté la direction du Point il y a plusieurs années. Parmi les raisons de son départ, il évoquait justement la montée en puissance du numérique. « Je suis parti avant de ne plus rien y comprendre ». Voilà ce qu'il disait à l'époque. Mais est-ce que c'est aussi ce qui vous a fait, vous, Claude Angéli, rendre votre titre de rédacteur en chef, de manière plus globale, pas simplement pour le numérique, la crainte de ne plus être dans le coup ?
Ah non, pas du tout. C'est que, je prenais un peu de l'âge, j'en avais marre du stress de la période qui précède la composition du journal, la fatigue, et puis la place aux autres, quoi, voilà. Mais Franz-Olivier Gisbert a peut-être voulu quitter aussi pour aller aux grosses têtes.
Ça vous tenterait ?
Ah non, alors. Non, c'est une vacherie que je sors.
Passer de rédacteur en chef à simple journaliste, entre guillemets, comme vous l'êtes aujourd'hui, oui. C'est pas trop dur ?
Pas du tout, c'est très bien. J'ai pas la responsabilité de me demander ce qu'il va y avoir dans le prochain journal, c'est aux autres. C'est très bien. Non, c'est très bien, je suis... Je l'ai souhaité, je l'ai vu venir. Et... Non. La seule chose qui m'angoisserait un peu, c'est de ne plus prendre plaisir à ce que je fais. Que je me désintéresse de la politique étrangère. Je ne couvre pas toute la politique étrangère. Je couvre certains dossiers où la France est mêlée ou intéressée. C'est-à-dire, petitement. Je ne suis pas un spécialiste de la presse diplomatique, comme on dit, tout ça et tout. Je prends des sujets qui m'interpellent et où je peux apporter quelque chose de nouveau.
Pour votre chronique de chaque semaine.
Oui, voilà. Autrement, très bien. Non, je n'ai pas fui le numérique, pas du tout. D'autant que le numérique, aucun a enchaîné, il n'était pas présent du tout, non.
J'imagine quand même que quand on a été rédacteur en chef, et qu'ensuite on reçoit le journal auquel on collabore, mais sans être décisionnaire, on a forcément un regard sur les choix qui sont faits.
Ben oui, absolument. Mais je me refuse à rendre ce public. C'est obligatoire, veut dire. Vous dites, on n'aurait pas fait ça, tout ça. Et alors, peut-être là, c'est bien ce qu'ils aient fait ça. Non, je ne suis pas la statue du commandeur dans ce journal, je suis un des gens qui collaborent au journal.
Vous vous interdisez concrètement d'aller rouspéter
sur
tel ou tel choix.
Je ne vais pas aux réunions. De temps en temps, je peux dire en privé ce que j'en pense à... Au rédacteur en chef, quoi.
Vous n'allez pas aux réunions ?
Non. Non, ben, d'abord, ça me prendrait du temps. Et ensuite, je ne voudrais pas avoir à intervenir. C'est idiot, je dirais. Vous quittez une fonction, ben, c'est fini, quoi. Voilà. Le journalisme n'est pas scientifique. Et quand on parlait de la maladie de Pompidou, on était à peu près les seuls à en parler... Et quand ça a été Giscard qui était devenu un sujet dans le Canard, j'avais fait un papier que c'était le roi fainéant, parce qu'il quittait l'Élysée à 5h, 6h l'après-midi, Jacques Fauvet, qui était directeur du Monde, a convoqué Ferenczi, c'était un journaliste à l'époque, il lui a dit « Nous avons parlé de la maladie de Pompidou après sa mort, eh bien Ferenczi, il faut parler des absences de Giscard maintenant ». Et Ferenczi a fait une enquête et tout. C'est lui qui me l'a raconté. Et c'est vrai que la maladie de Pompidou, qui était visible quand on le voyait à la télévision, on n'en parlait pas. Je crois qu'il y a des petits journaux d'extrême droite qui en parlaient, c'est tout. Nous, on en parlait régulièrement. On a fait un petit peu cette chose extraordinaire, c'est que le journal est paru la veille de la mort de Pompidou et que une rumeur lui faisait dire « Je les enterrerai tous ». Moi, j'étais en enquête à Nice. J'étais à l'hôtel et je regardais un film de Frankenheimer, je crois que c'est l'homme de fer, qui n'était jamais passé à la télévision. Puis tout d'un coup, le film s'arrête et il y a un petit jeune devant une table vide. Selon l'AFP, le président Pompidou est mort ce matin à 9h15. plouf, et le film a repris. J'ai trouvé ça, alors vraiment, un truc invraisemblable. Comportement de la télévision à propos de la mort du président de la République, complètement idiot. Et l'excuse est venue après. Nous n'avons pas interrompu le film pour permettre à nos camarades de la rédaction de préparer l'émission qui allait suivre, avec Zitron et compagnie. L'émission était lamentable et tout. Ils n'avaient rien préparé, que c'était à la va-vite, que c'était maladroit et con. C'est-à-dire, on interrompt un film, un chef-d'œuvre de Frankenheimer, ça me plaît pas. Mais là, c'est autre chose. On met pas un petit journaliste qui était comme ça, crispé, l'AFP, et ça. Non, quelle honte. Ça, c'était une grande télévision, c'était la 2, je crois.
Vous voulez dire que c'était prévisible, mais qu'on ne voulait pas le prévoir dans les cercles de la télévision publique?
J'en sais rien, c'est complètement idiot, parce que tous les gens préparent les nécros, comme on dit.
Au cours de l'année 2019, plusieurs journalistes ont été convoqués par les services de renseignement intérieur, la DGSI,
oui.
Après des articles sur l'affaire Benalla et sur les armes françaises utilisées au conflit du Yémen. L'ONG Reporters sans frontières a dénoncé des actes qui peuvent viser à intimider les journalistes et leurs rédactions. De plus en plus, on lit des articles qui enquêtent pour trouver les sources des journalistes, y compris sur Le Canard Enchaîné. Est-ce que vous avez l'impression que la liberté de la presse a reculé sur le long cours?
Absolument, oui. Parce qu'ils sont prêts à utiliser tous les moyens technologiques qui leur permettraient de retrouver qui a téléphoné à qui et à quel moment. Et donc, la coïncidence peut-être explique ceci ou cela. Moi, je sais que grâce à une de mes sources, on a été les premiers au Canard à expliquer que des armes françaises étaient utilisées dans la guerre du Yémen. Et j'ai un peu rouspété quand mes petits confrères ont évité de citer le Canard. Point. Mais la liberté est mise en cause, je dirais, presque quotidiennement sur ces choses-là. Je ne sais pas comment ils pratiquent, mais je sais qu'ils cherchent. Ils cherchent à savoir qui a parlé. Et que ce soit pour des raisons politiques ou des raisons commerciales ou autres, c'est scandaleux. De la même façon que, sur le plan du service des ordres et autres, il y a une militarisation des forces maintenant. Une conception des forces qui n'est pas, disons, d'une démocratie ordinaire. Mais, je veux dire, la liberté de la presse, si vous voulez la prendre, vous la prenez. Bien entendu, c'est plus difficile dans certains médias. Mais c'est une chose où il faut s'appuyer sur ses confrères, sur les syndicats éventuellement, ou sur les associations de journalistes.
Mais vous disiez qu'il y a de plus en plus de moyens qui sont mis pour traquer les sources.
Ben absolument, oui. Toute l'histoire des fadettes, c'est-à-dire des petites factures, des conversations de journalistes ou de personnes, voilà, ça fait que des informateurs évitent de vous parler. Parce qu'ils ont peur qu'on traque ces conversations. Mais il n'est pas normal, disons, de ne pas faire paraître des informations par prudence, si vous êtes sûr de l'information. Et moi, j'ai critiqué un peu mes confrères, je sais qu'ils n'ont pas parlé dans les convocations qu'ils ont eues. Ils n'ont parlé à la direction du renseignement intérieur. Je sais qu'ils n'ont pas parlé, c'est très bien. Mais je les ai critiqués dans une interview en disant il ne fallait pas y aller.
Refuser la convocation refuser des services secrets.
Ben oui, absolument. Comme nous, on a refusé les perquisitions quand ils sont venus ici. Pour refuser. Et là, on fait état de notre liberté et on n'a aucune sanction. S'ils n'y étaient pas allés, on n'aurait pas envoyé les gendarmes les chercher. Parce que là, on avait une manifestation de journalistes. De droite comme de gauche. Hein. Ça, il faut s'opposer à tout ça.
Mais est-ce que cela, ça vous fait dire qu'il y a eu finalement un âge d'or de la liberté vis-à-vis des sources?
Oui, parce qu'à un moment donné, les sources étaient plus tranquilles, tandis que là, maintenant, avec toutes ces façons de convoquer les gens, tout ça et tout, c'est pour faire peur aux sources, peur aux militaires, aux fonctionnaires et tout.
C'était quand cet âge d'or?
Une bonne dizaine d'années. Je vais vous donner un exemple. Ma femme avait eu un contact avec un militaire de haut rang en Afghanistan. Ce militaire de haut rang, qui devait aller dans un cybercafé ou quelque chose comme ça, lui envoyait des renseignements sur le contingent français. C'est-à-dire, il prenait les précautions, il nous disait à quel point le contingent français, au début de l'intervention en Afghanistan, était sous-équipé. Mauvais gilet pare-balles, mauvais équipement, ils avaient 25 kilos sur le dos et tout. Et on a fait, grâce à ces informations, on s'était renseigné d'ailleurs pour savoir s'il était crédible ou pas, hein, bien entendu. Grâce à ces informations, on a fait un papier sur la paupérisation du contingent français en Afghanistan. Un mois après, il y avait 11 morts, justement à cause de cet équipement et tout. Les parents des victimes nous ont téléphoné, nous ont remercié et tout, ça ne changeait rien à leur situation. Et on a été très bons à cause d'un type, je connais son grade et tout, mais qui n'avait rien à voir avec le canard enchaîné. Mais il avait trouvé le moyen de s'adresser au canard enchaîné, parce qu'il savait qu'on allait faire quelque chose de ces informations.
Ça serait plus possible aujourd'hui ?
À mon avis, c'est possible hein, qu'ils écrivent. Et il faut toujours, nous, qu'on puisse savoir si on ne va pas être manipulé. Mais là, c'était difficile de nous manipuler, puisqu'ils défendaient les soldats de là-bas. Et nous qui avions été en contradiction avec l'intervention en Afghanistan, on ne pouvait pas nous accuser de quelque chose.
Comment vous faites pour renouveler vos sources ?
Il n'y a pas de secret, hein. Il faut rencontrer des gens et puis savoir des gens qui savent, qui connaissent et puis qui vous connaissent, qui me connaissent depuis un certain temps, ou qui m'ont pratiqué depuis un certain temps, ou qui savent que le journal dans lequel j'écris peut publier tout ce qu'on lui donne. Et là, on a rendu un service parce que, par la suite, le contingent français a reçu l'équipement, mais c'est aussi à cause des morts. Hein.
Vous avez des enfants, Claude Angély ?
Oui.
Est-ce que vous leur avez conseillé ou déconseillé de devenir journaliste ?
J'ai jamais parlé avec elles de ça. Non, non, elles ont fait ce qu'elles ont voulu et bien.
Il n'y avait pas un côté...
Non, non.
Allez-y, c'est génial, ou au contraire, n'y allez pas, c'est une profession dangereuse.
Non, non. Je ne me suis pas mêlé de leur passion. Elles en ont eu et elles en ont.
Vous les avez laissées totalement libres ?
Totalement libres. Y compris dans leur vie privée.
Vous qui voyez très régulièrement les cuisines parfois peu ragoûtantes de la politique, des hommes politiques, des femmes politiques, est-ce que vous votez ?
Je ne les vois plus régulièrement. Mais est-ce que je vote ? Oui.
Ça ne vous a pas dégoûté ?
Même quand je vote nul. Je vous ai dit depuis 1960, c'est-à-dire j'ai voté une fois pour, en 1956, pour le PC, après mon expérience... Et mon exclusion, j'avais plus aucune raison de voter pour eux. Et j'ai voté contre. J'ai voté contre Pompidou, contre Giscard, contre Sarkozy, contre Chirac. Voilà. Je n'ai plus voté pour. C'est-à-dire, il n'y avait pas une adhésion à un programme quelconque. J'essayais d'écarter ce qui me semblait le pire.
Est-ce qu'il y a un lien de ce désenchantement avec votre profession de journaliste ?
Ben, c'est plutôt un lien avec la connaissance que j'ai du monde politique, oui. Alors, bon, en partie grâce au journalisme, mais surtout l'expérience, quand on voit comment se sont conduits les présidents, comment on a utilisé la Ve République pour le pouvoir personnel des présidents de droite et des présidents de gauche, c'est déplorable. C'est déplorable que les interventions militaires se sont pratiqués sans que le Parlement soit consulté, sans même qu'il y ait un retour d'expérience, c'est-à-dire une commission d'enquête ensuite sur l'engagement français en Afghanistan, sur l'engagement français en Libye, sur l'engagement français au Sahel et tout. Non. Monsieur décide, on envoie des hommes.
Mais quand on connaît les arrière-cuisines de la politique, via le journalisme, selon vous, c'est impossible d'être enthousiaste vis-à-vis de la politique ?
Écoutez, si vous connaissez quelqu'un d'enthousiaste vis-à-vis de la politique, présentez-le-moi parce que ça fait un sujet de livre.
Ça existe. Il y a des gens qui votent dès demain pour un candidat.
Non, ils votent parce qu'ils sont convaincus que ça va être un peu mieux. Mais enthousiaste, non. Enthousiaste, j'en connais pas et je crois que c'est un malade mental, alors.
Je veux dire, si vous n'aviez pas été journaliste, vous auriez eu moins de distance vis-à-vis de la politique, des appareils, des candidats.
J'arrive pas à imaginer. Avoir fait une autre vie. Ou faire une autre vie.
Pourquoi ?
Ben parce que je me sens bien.
Vous n'auriez pas pu faire autre chose que du journalisme ?
si, j'aurais pu faire autre chose, mais ça ne s'est pas présenté. Et j'avais pas envie de faire autre chose.
Au fil de toutes ces années à fréquenter les responsables politiques, Claude Angély, est-ce que vous avez noué de près ou de loin des amitiés ?
Non. Des relations courtoises ou autres, mais l'amitié, non, parce que avec un homme politique, avec une femme politique, je veux dire, les contacts d'un journaliste sont tout autres. Il y a toujours la possibilité de connaître des choses ou de dire des choses de sa part ou de ma part, non.
Il y en a pour lesquels vous avez éprouvé de la sympathie. Vous avez beaucoup vu Dominique de Villepin, par exemple ?
Oui, Dominique de Villepin, on l'a vu avec ma femme 25 à 30 fois, parce que... Puis je l'ai vu quand il était ministre de l'Intérieur, quand il était Premier ministre, au Quai d'Orsay, oui. Dominique de Villepin nous intéressait parce qu'il était collaborateur de Chirac, parce qu'ensuite, ils ont pris position tous deux contre la guerre d'Irak, ce que nous avons approuvé dans le journal, c'est pas toujours courant, quoi. Il est intéressant, il est tout fou, il est franc du collier, mais bon, je peux pas approuver tout ce qu'a fait, tout ce qu'a dit, tout ce qu'a eu pour rôle Dominique de Villepin, mais c'est un homme intéressant, voilà. Alors, je m'intéresse toujours à ce qu'il dit, parce que dans ses commentaires, maintenant qu'il est un peu libéré des choses, il est un peu trop macronien à mon goût, mais bon, c'est la vie.
Est-ce que, au cours de toutes ces années, en faisant parfois trembler la République, vous avez eu l'impression d'être un homme puissant ?
Mais j'ai pas fait trembler la République. La République, elle tremble parce qu'elle n'est pas sûre d'elle, ou parce qu'elle est paranoïaque, comme au temps où il voulait nous espionner et tout, voilà. Non, on n'a pas fait trembler la République. Disons qu'on l'énerve, disons qu'on la gêne, j'espère qu'on la gêne.
Claude Angély, un journaliste est censé disséquer en permanence les malheurs du monde, en parler. Est-ce que, compte tenu de cela, il peut être heureux ?
Ah oui, absolument. Absolument. Heureux dans sa vie privée, c'est le cas.
Vous avez été heureux tout au long de ces années au Canard Enchaîné ?
Pas toutes, puisque je n'ai pas vécu avec la même personne. Mais c'est bien.
Le journalisme n'a pas d'influence sur l'humeur et plus globalement sur le bonheur personnel ?
Non, sur le bonheur, non. L'humeur, oui. Des fois, c'est évident qu'il y a des choses qui, même moi qui en ai beaucoup vu, qui peuvent me foutre en pétard et me rendre un moment désagréable parce que je ne parle que de ça, quoi. Voilà. Mais c'est, encore une fois, c'est banal.
C'est un métier tout de même qui a une forte résonance sur le reste de la vie.
Si on l'exerce comme il doit être exercé, si on n'en a que foutre, si on va écrire un journal comme on irait travailler à la BNP, ben je suis désolé, non. Il y a des journalistes, ils n'en ont rien à faire de ce qui se passe dans le monde, ils n'en ont rien à faire de l'écologie, si l'Australie brûle, ils n'en ont rien à faire que des gens crèvent de faim ici ou là. Bon, oui, c'est vrai, il y a des gens qui vivent sans s'intéresser aux choses, quoi, parce que ils sont intéressés par leur petite personne ou autre. Mais le journalisme, c'est justement de ne pas être intéressé seulement par sa petite personne et de raconter un petit peu ce qu'il y a autour de soi.
Précisément, vous avez un style très particulier au Canard, à la fois satirique et à la fois dans l'investigation. Est-ce que vous avez des successeurs aujourd'hui dans ce style-là ?
Ben, ils sont au Canard, régulièrement.
Mais seulement au Canard ?
Ben, je ne vois pas de... Bon, vous avez des chroniqueurs ici ou là qui ont un style polémique ou autre qui peuvent être pas mauvais, quoi. Vous avez des gens de droite qui ont un esprit polémique et qui sont assez méchants. Un type comme Rioufol au Figaro, il est percutant, hein. Il y a bien des fois, on peut être d'accord avec une partie de ce qu'il dit, parce qu'il est très caustique, il est très critique envers des gens qui sont proches de lui, quand même. Et ça, c'est remarquable. C'est-à-dire, on peut picorer des idées, picorer des réactions, et voir que, quand même, tout le monde, qu'il soit de droite ou de gauche, n'a pas la même façon de s'aplatir devant un pays qui est régi par une constitution qui ne donne pas aux citoyens l'impression qu'on travaille pour lui.
Une émission comme Quotidien sur la chaîne TMC, qui aussi vise à promouvoir à la fois la satire et à la fois l'information, ça peut aussi faire partie de vos successeurs ou vous êtes un peu sceptique sur ce genre d'émission ?
Non, mais successeur, j'ai pas besoin de successeur, je veux dire. Ni le canard n'a besoin de successeur. Chacun fait l'émission où travaille. Disons que le quotidien, que j'ai pas toujours vu, mais il y a des choses qui sont bien. Autre. Bon, c'est pas Hanouna quand même, quoi. Qu'il y ait des excès, qu'il y ait des. La liberté ne va pas sans un excès de liberté, voilà. Donc, s'il y a des conneries ou autres, bon, ça arrive, voilà. Mais je préfère ça au silence morne, à l'insignifiance, au fait que quand on interviewe une personne, ce qu'on veut, c'est se mettre en valeur. Quand on va interviewer Gosse, non, quand on va interviewer tel homme politique ou tel syndicaliste, on le coupe pour pouvoir placer une autre question. Alors qu'on est là pour permettre l'expression d'une opinion et toujours lui poser des questions courtoisement, mais insidieuse. Mais remarque qu'on est insidieux avec certains et pas avec d'autres. Les imposteurs sont nombreux dans les médias.
Vous n'avez pas envie d'écrire là-dessus un jour ? D'être vous-même incisif ?
Oh, j'ai un petit peu dit ça, mais c'est facile. C'est facile. On peut pas vivre sur le dos des autres.
Sur cet aspect satirique, humour, souvent corrosif du canard enchaîné, est-ce que d'un autre côté, Claude Angéli, vous n'avez pas participé au ricanement permanent qui peut abîmer en un sens la confiance dans la démocratie ?
Bon, vous savez, Mauriac critiquait le ricanement mécanique du canard enchaîné. C'était il y a très longtemps. Mais c'est vrai que, des fois, ça ricane, le canard enchaîné. Et c'est vrai que, bon, il y a des sujets, il y a des comportements qui prêtent à se moquer. Disons, il ne faut pas que ce soit trop systématique, il vaut mieux que ce soit polémique. Justement, la polémique peut remplacer le ricanement. Le ricanement, qui est normal, parce que vous avez tel ministre qui fait une faute de français ou telle chose comme ça, bon, c'est la vie. Mais j'en fais aussi, en parole. Mais le ricanement, moi je préfère un petit peu d'agressivité, un peu de petits commentaires méchants, polémiques, voilà.
En tant que rédacteur en chef, vous avez essayé plutôt de contenir le ricanement, c'est ça ? Quand il y a eu des arbitrages à faire ?
Bon, tant que faire se peut. Il ne faut pas qu'un article, disons, sa conclusion soit trop ricaneuse. J'ai toujours préféré qu'elle soit un peu agressive.
Vous sous-entendez que le ricanement peut masquer un manque de travail ?
Non, le ricanement peut être mécanique, comme disait Mauriac, et c'est préjudiciable au raisonnement. J'ai toujours pensé que, en quelques mots, quelques phrases, on pouvait dire ce qu'on pensait et ne pas penser que c'est plus important que ce qui se passe. Mais simplement aider les gens à dire « mais c'est ça qu'il ne fallait pas faire ». Voilà. Même ça qu'il ne fallait pas le faire, c'est déjà la polémique. Et donc c'est pas forcément des grands mots.
Pour aller au bout de cette idée, est-ce que ça veut dire que parfois vous avez été collectivement trop loin dans le ricanement ?
Non, c'est un petit peu une habitude du canard, ça. On ne pourrait pas l'empêcher, surtout dans les chroniques, surtout dans les pages culturelles ou autres, là, on ricane un peu, bon, il faut pas être sectaire, hein. Je ne suis pas contre le ricanement.
Comment vous le voyez, le canard enchaîné, demain ? Est-ce qu'il va survivre encore longtemps, selon vous ?
Survivre ? Il va vivre. Je ne vois pas pourquoi la presse papier serait condamnée. Elle peut évoluer, je ne sais pas. J'ai du mal à prévoir en politique. Alors dans ma profession, je me vois mal à donner des consignes ou à prétendre savoir quelque chose. Douter, c'est bien. Et ne pas se prendre pour un « moi, je pense que », c'est une expression que je déteste.
Il y aura toujours besoin du canard enchaîné ?
À mon avis, oui. Parce que c'est une façon irrévérencieuse de parler des pouvoirs en place. Ça, c'est pas ricaner. C'est absence de révérence. Si vous voulez, pour résumer, le Canard ne publiera jamais un éditorial ou un commentaire d'Alain Duhamel.
Pourquoi ?
C'est pour être polémique un petit peu.
Alain Duhamel, il représente quoi pour vous ?
Je sais pas, c'est une forme classique un peu du journalisme. Respectable, respectueuse.
Mais ?
Bon, il s'est toujours accommodé des pouvoirs en place.
C'est votre anti-modèle ?
Il a le droit. Non, pas du tout anti-modèle. Non, mais il a le droit, je veux dire. On a le droit d'être Alain Duhamel. Ma seule possibilité, c'est de dire un petit peu ce que j'en pense, quoi.
Et vous, Claude Angéli, oui. Est-ce que vous entrevoyez la retraite ?
Un jour, quand je ne m'amuserai plus, oui.
Vous y avez déjà pensé ?
Non. Vous savez, je ne fais jamais de prévision, même pour moi. Je ne suis pas comme le général qui disait... Si Dieu me prête vie, non, simplement, je vis, j'ai toujours des projets.
Ça veut dire que vous ne vous voyez pas vivre sans avoir soit des articles à rendre, soit des scénarios à rendre ?
Ah non, je ne me vois pas en pantoufle en train de regarder la télé, sans marcher, sans sortir.
Parce que vous êtes né en 1931, vous auriez largement l'âge d'aller profiter de la vie de ses douceurs.
Mais je profite de la vie et de ses douceurs. Maintenant que je suis en semi-retraite.
Mais vous ne pourriez pas couper le cordon avec le journalisme ?
Non, j'ai pas besoin. Je pratique le journalisme, y compris quand je lis les articles.
Vous avez envie de publier jusqu'au dernier jour ?
Oh, écoutez, le dernier jour, il n'est pas maintenant, quand même.
Si on se projette ?
Je ne me projette pas.
Vous avez envie de continuer tant que vous vous amusez ?
Absolument.
Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Les plaisirs du journalisme ».
Ça dit bien tout ce que ça veut dire.
Quel est le principal plaisir du journalisme ?
D'apprendre des choses, et puis d'avoir un endroit où les publier. C'est ça le canard aussi, c'est une grande liberté, vous voyez. On m'a jamais dit, non, tu peux pas dire ça.
Et comme le dit d'ailleurs la devise du Canard enchaîné, la liberté de la presse ne s'use que quand on ne s'en sert pas.
Oui, c'est un démarquage de la publicité Vondère. La pile Vendaire ne s'use que si l'on s'en sert. Et ils ont fait ça avant-guerre. Et ça reste valable. Hein.
Ça marche toujours.
Ça marche toujours.
Merci beaucoup, Claude Angéli. Merci de nous avoir reçus.
Merci à vous.
Fin de cette rencontre de Frédéric Saïs avec Claude Angéli. À voix nue, réalisation Laurent Polleré, prise de son Sandrine Malon, attachée de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.